France Inter.
Le juge Durand dit qu'on pourrait diviser l'humanité en deux catégories. Le juge Durand est passé par ici au moment où il a quitté la Civise, commission sur l'inceste, il en était le président. Le juge Durand connaît bien les enfances fracassées, les familles éclatées. Il dit qu'on pourrait diviser l'humanité en deux catégories, celle qui a été bien aimée, enfant, bien regardée et bien traitée, et puis celle qui ne l'a pas été. Celle qui a eu de bons parents, des proches, des figures d'attachement qui vous donnent la rampe de lancement pour pouvoir déployer vos ailes et puis voler vers le soleil. Parce qu'on vous a aimé, parce que vous avez été choyé, alors vous savez vous aimer et alors vous osez tenter. Et si un jour vous vous plantez, dans celle-là, d'humanité, il y a un filet de sécurité. De l'autre côté, sur la face B, il n'y a que le sol qui réceptionne et il y a de la vie, ouais, mais elle cogne. Le juge Durand dit que ceux-là doivent faire de leur vie un combat pour faire tête toute cette violence qui vous a irrigué l'enfance et pour que la soif de revanche vous donne un peu le goût de la paix, l'envie de passer de l'autre côté de l'humanité, celui où aimer, c'est gagner.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Bonsoir, bienvenue Yazid Hichemraen.
Bonsoir, merci. Merci beaucoup.
Chef pâtissier du Royal Monceau à Paris, vous revenez tout juste de Dubaï avec une étape aussi par Tokyo entre les deux. Paris, mais jamais très longtemps. Vous aimez les aéroports ?
J'ai appris à les aimer, bien entendu, et surtout à les connaître.
Vous passez votre temps entre deux avions et entre vos 7 boutiques-restaurants à Singapour, Jeddah, au Bahreïn et au fond. Je me demandais pourquoi vous courez, ou plutôt vous volez, après quoi, vous croyez ?
Après une constante évolution, certainement. Ouais. Et quand on crée un peu, on a forcément envie de créer beaucoup. Mmh. Et j'ai commencé donc la création par mon métier, la pâtisserie. Et quand j'ai eu estimé en avoir fait le tour, bien entendu, on n'a jamais fait le tour d'un métier entièrement, mais j'ai voulu le faire perdurer en créant des entreprises afin de former encore plus de personnes à cet art.
Est-ce que vous courez aussi après une forme de perfection ? Est-ce qu'il y aurait un dessert parfait ou un gâteau parfait ?
Non, on dit souvent que les meilleurs gâteaux, c'est ceux de nos mamans. Et c'est une phrase que je répète énormément à mes équipes, parce que c'est ceux qui sont faits avec le plus d'âme, le plus d'amour, le plus d'instinct, qui sont mangés dans un cadre aussi particulier. Donc je pense pas qu'il y ait de gâteau parfait. Après, je pense que la différence entre un bon pâtissier et un excellent pâtissier, c'est sa connaissance des produits et sa compréhension. Et ben, le fait de voyager comme ce que je voyage actuellement, ça me permet d'avoir un esprit très ouvert sur différentes cultures et différents pays.
Alors ça a l'air de quoi un chef pâtissier mondialement connu ? Prenez ce miroir s'il vous plaît, prenez surtout le temps de vous regarder et de vous décrire, ne levez pas les yeux au ciel, regardez-vous.
Fatigué ?
Pas ça, il y a de quoi. Si vous deviez vous décrire à celles et ceux qui nous écoutent, vous diriez quoi ?
Oula, sacrée question. Je dirais, dans le miroir comme ça. Je parle des cernes ou j'en parle pas. Je dirais que je suis un garçon assez méticuleux, avec beaucoup de défauts, mais qui caractérise mes qualités. Parce que pour voir les qualités d'une personne, ben, il faut aussi en connaître les défauts. Et je pense être un peu comme une recette. Donc pas mal d'ingrédients qui, en fin de compte, amènent un équilibre de manière à faire la meilleure recette. Voilà.
Assis dans ce studio pour un peu moins d'une heure avec nous, j'espère que vous allez tenir en place.
Ça devrait aller.
Torture de rester là sans bouger ou presque avec vous. Tout commence le 16 septembre 1991 à Épernay. Et puis il y a la pouponnière, et puis la famille d'accueil, et puis le foyer, et puis Paris, Nice, Joël Robuchon à Monaco, Mykonos avec Bernard Arnault, Étoile, Comète, Fusée. Vous tutoyez le soleil et vous nous raconterez.
France Inter. En marge.
Oh,
Je vous vois sourire, Yazid, vous l'avez reconnu, le générique de Bon Appétit, bien sûr, émission culte de Joël Robuchon sur France 3. Avec qui, quand, où la regardiez-vous? Dites-nous.
Eh bien, tous les midis avec ma petite Tati, donc ma famille d'accueil qui m'a éduqué, élevé. Elle ne voulait pas qu'on mange à la cantine le midi. Donc elle venait nous chercher pour nous faire manger des plats qu'elle avait préparés elle-même, avec les légumes du potager. Et il se trouve qu'on regardait toujours cette émission.
Et ouais. Vous la regardiez en vous disant quoi?
Bah, au début, ça m'embêtait un peu, je vous avoue. Je préférais les dessins animés de la 5. Et puis plus j'ai grandi, plus j'ai compris un peu le pourquoi du comment ma tati regardait. Ouais. Et elle était tellement fière de pouvoir les regarder avec le col bleu blanc rouge, donc de Merveilles de France, qu'avait Joël Robuchon, qu'un jour je me suis dit, je serais comme eux.
Ouais. Voilà. Alors avant votre tati, il y a la pouponnière, vous êtes placée dès votre naissance, née de père inconnu. Votre mère se droguait, se prostituait, l'a laissé vous élever à plein temps, aurait été beaucoup trop risqué pour vous. Alors à 2 ans, vous êtes atterrissée chez votre tati, donc chez Jeannine et Yves, vos parents d'accueil. Il est plombier, elle est mère au foyer. Et d'ailleurs, vous continuez à les appeler tonton et tati aujourd'hui quand vous parlez d'eux. Vous vous êtes tout de suite senti bien chez eux?
Ah, directement. Ouais. Ça a été comme une évidence. Et puis... une douceur extrême, et d'ailleurs, je dis souvent que c'est les gens qui m'ont sauvé la vie, en fin de compte, qui font tout ce que je fais aujourd'hui, parce que quand on grandit comme ce que j'ai grandi, qu'on a un exemple maternel et paternel comme ce que j'ai eu, si on n'a pas très jeune une tati, un tonton avec un humanisme comme eux, et ben on a vite fait de se raccrocher à rien.
Alors, ils ont aussi 2 grands-fils, Laurent et Dany, tous les 2 pâtissiers en grande surface. Quels étaient vos rapports avec eux?
Très bon. Dès le début de ma relation avec eux, on a fait des gâteaux. Voilà, le mercredi, le samedi.
Gâteau yaourt.
Exactement, gâteau yaourt. Et il se trouve que Dany et Laurent faisaient tous les gâteaux d'anniversaire de tous les gens de la famille. Donc, ils cuisinaient le samedi et le dimanche dans la cuisine, et moi, je les regardais. Et à chaque fois qu'on apportait un de leurs poiriers ou de leurs fraisiers chez des gens de la famille, tout le monde était super effaré par la beauté des gâteaux et les félicitait. Ouais. Et c'était cette reconnaissance que je n'avais pas. Et dans ma tête, à chaque fois que je voyais une scène comme ça, je me disais, un jour, ce sera moi aussi.
Les week-ends, en revanche, vous retourniez chez votre mère. C'était un peu le grand écart pour vous, c'est ça?
Très grand paradoxe, oui. Je passais d'une très belle éducation avec des codes comme ne pas sortir de table avant d'avoir fini son assiette ou de ne pas manger avec les coudes sur la table à tout simplement me faire à manger moi-même à l'âge de 3 ou 4 ans.
À 3-4 ans, et vous faites à manger vous-même?
Enfin, faire à manger moi-même, j'allais chercher dans le frigo des denrées et puis on se débrouillait comme on pouvait. J'ai un certain souvenir avec ma sœur des cordons bleus congelés qu'on récupérait dans le congélateur et qu'on faisait chauffer, entre guillemets, parce qu'ils n'étaient jamais vraiment chauds, entre les rails du radiateur.
Mais votre mère était où à ce moment-là?
Eh bien, elle était là, mais on ne l'a jamais vraiment vue à jeun, notre maman. Et donc, elle nous faisait à manger de temps en temps, mais ce n'était pas non plus la folie, quoi.
Vous saviez de quoi elle vivait quand vous étiez petit?
Eh oui, en fait, on savait parce qu'on aimait beaucoup aller chez elle les premiers week-ends du mois, pas les derniers. Parce que les premiers week-ends du mois, on l'accompagnait à la poste et elle récupérait une somme de je ne sais plus combien d'euros. Mais à l'époque, c'était des francs, ça s'appelait le RSA. Et quand elle avait cet argent, ben, on vivait forcément des moments différents que de la fin du mois. Donc voilà.
Quand votre mère arrive du Maroc, elle est enceinte.
Ouais.
Enceinte suite à un viol conjugal.
Exactement,
elle a été mariée de force.
Voilà, c'est ça.
Elle accouchera sous X en France.
À l'âge de 16 ans.
Ouais. Et puis elle retombera enceinte de vous et puis d'un petit frère. Vous avez 10, 12 ans environ quand vous décidez de couper les ponts avec elle. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi?
Eh ben, ça a toujours été très compliqué avec ma mère parce que on l'a jamais vue trop à jeun, à part quand elle faisait des cures de désintoxication, mais la pauvre retombait toujours dans ses travers. Et il se trouve qu'elle a eu un enfant qui s'appelait Samir, qui était né, il me semble, le 26 septembre, donc 10 jours après moi. Je suis né le 16. Et puis il est mort, en fait, cet enfant. On nous a longtemps fait croire à une mort subite du hérisson, mais il se trouve que c'est un mauvais traitement de sa part. Elle vivait avec dans des foyers pour mères célibataires. Mmh. Et elle continuait l'alcool et la drogue en même temps que l'éducation, entre guillemets, du petit. Donc ça a mal terminé. Et je pense que ça a été le début, entre guillemets, de la fin de sa vie. Parce qu'elle avait un cœur, elle ne faisait pas les choses exprès. Je pense qu'elle avait une très grande souffrance. Et de perdre un enfant pour tout être humain, encore plus pour une mère, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus douloureux sur Terre. Et encore plus, certainement, pour ma mère qui s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'elle-même ni de quelqu'un d'autre. Et donc, bah, elle est partie encore plus dans les enfers.
Alors, rideau, et on oublie, on se concentre sur les livres de pâtisserie et puis sur les posters de chefs pâtissiers punaisés au mur de la chambre pendant qu'à la télé, on vous promet qu'un jour, vous partirez.
Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, les secrets de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire.
Ils disent quoi de la vie ou de la suite, les Pokémon, aux petits garçons que vous êtes ?
C'est marrant parce que j'étais au Japon il y a 3 jours et je suis allé voir la boutique Pokémon. Ça me rappelle énormément de souvenirs parce que c'était un monde parallèle à ma vie quand j'étais petit, avec tout un tas de choses qui n'existaient pas et des animaux qui avaient des super pouvoirs. Et en fait, c'était une des seules choses qui me faisait du bien. Je regardais et j'avais l'impression d'être avec Sacha, Ondine et Pierre, dresseurs de Pokémon. C'était marrant.
Quel genre d'enfant étiez-vous ?
J'étais, je pense, un enfant attachant parce que j'étais très turbulent par rapport à certainement tout ce qui m'est arrivé. Mais en même temps, j'avais une forme d'attachement. Parce que j'avais une forme de douceur d'envie d'évoluer constamment.
Vous avez une dizaine d'années quand vous quittez Yves et Janine. Ils sont désormais trop vieux pour vous garder. À la retraite, ils perdent leur licence de famille d'accueil. Alors pour vous, ce sera le foyer. Si je vous dis foyer, quelles images vous reviennent ?
Horrible. Horrible. Solitude, extrême solitude. Et au-delà de l'extrême solitude, c'est apprendre dès le début de sa tendre enfance, à être livré à soi-même. Parce que, ben, avec ma mère, ça l'a pas fait. Bon, c'est pas de ma faute. Moi, je suis né, j'ai rien demandé, mais ça l'a pas fait. Avec ma tati, en fait, ça cut d'un coup à l'âge de 10 ans. Alors que c'est la seule personne, entre guillemets, avec mon tonton qui me donnait du réel amour et une réelle raison d'être ici sur Terre, en fin de compte. Parce qu'on se demande ce qu'on fait là quand on est enfant et qu'on a à vivre tout ça d'une manière injuste. Et arrivé au foyer, il n'y a plus d'amour, c'est des éducateurs, ça porte bien son nom, ils sont là pour vous éduquer, ils ont des horaires de travail et des salaires pour s'occuper de vous, et forcément ça enlève certaines formes de compassion.
Bien sûr.
Et il se trouve que quand vous êtes mélangé à l'âge de 10 ans avec des jeunes dans des groupes qui ont à la fois 16-18 ans en contrat jeune majeur et d'autres qui ont 4 ans, et ben vous voyez très très jeune des situations qui sont complètement folles. Il m'est arrivé moi de voir le matin en me réveillant dans cette grande cour en allant au petit déjeuner sur ce long couloir de verre, plein de voitures de police. Et quand on demandait aux éducateurs qu'est-ce qui se passe, on disait « Ah ben, il y a un jeune, je sais pas moi, Léo, du groupe des Verts, donc le groupe de 12-14 ans, qui avait touché ou violé une petite de 4 ans qui était dans le groupe des Jaunes. » On apprend à vivre avec ce genre de choses-là. Et là, il n'y a pas de Pokémon, ni de dessin animé, ni de Midi les Zouzous. C'est BFM TV un peu tous les jours, quoi.
Ça veut dire que le rapport à l'autre est forcément violent, basé sur une forme de défiance. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer de lien.
Bien sûr, il y a forcément une forme de lien, parce que j'ai noué des amitiés qui étaient extraordinaires, des amitiés du béton, quoi, de la rue, qui n'étaient pas toujours bienveillantes et bénéfiques pour réussir à s'en sortir dans la vie, mais ça restait quand même une forme d'amitié, où on se serrait les coudes. Néanmoins, c'est vrai que le premier foyer où je suis allé, par exemple, moi je suis arrivé là-bas comme un agneau. Ma tati et mon tonton, monsieur et madame Binet, Yves et Janine, voilà, avec une belle éducation. Et au premier repas, bon, bah, quand il fallait se lever pour aller chercher le pain, si je me levais pas pour aller le chercher, eh ben, ça partait en bagarre parce que j'étais le plus bas de l'échelle avec les enfants. Et si on n'est pas plus violent que les autres, en fin de compte, on se fait écraser. Donc on apprend, en fait, à être violent.
Et Yves et Janine, vous avez pu garder quand même un contact avec eux ? Vous pouviez aller les voir de temps en temps ? Vous aviez le droit ?
Ah non, enfin... bah, Au début, non, parce que c'est pas mes parents, ces gens. Ça, c'était ma famille d'accueil aux yeux de l'État et aux yeux des assistantes sociales. C'était des gens qui étaient payés pour s'occuper de moi. Donc, eux ont créé une alchimie humaine et paternelle, maternelle avec moi. Mais en réalité, quand ils sont en retraite, eh ben, on est comme du bétail, quoi. Il va au foyer et puis c'est tout. Et vous verrez quand il aura 18 ans s'il en a envie. Et voilà, en fait, l'aide sociale à l'enfance ne nous a pas poussé à continuer de nous voir parce que j'avais toujours une mère et un père.
Alors en attendant, tous les jours, Walkman sur les oreilles, vous partez au collège et puis au lycée, et c'est ça que vous entendez.
Exactement.
Booba, Pitbull.
Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 6-45, je suis le pitch, je m'en avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, je suis au BN, salle noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien.
Il a joué quel rôle, Booba, dans votre vie?
Ah, bah avec le recul. Un très grand rôle parce que quand j'étais plus jeune, en fait ces textes, bien entendu, à l'âge où je les écoutais, je les comprenais pas tous. C'était une forme de rébellion, de haine que d'écouter certains textes avec des gros mots. Et puis quand j'ai grandi, j'en ai pris plus connaissance et puis j'ai compris pourquoi certaines musiques me touchaient plus que d'autres, entre guillemets. Et quand je dis importante, c'est que quand j'étais tout au fond du trou, au foyer, et que j'étais à l'arrière de ce fameux camion pour aller au collège ou ailleurs, le fait d'écouter ce genre de musique, ces musiques, et de voir qui il était, cette personne assez, avec une carrure assez imposante, forte et sûre de lui en toutes circonstances, et ben quelque part je m'identifiais, je me disais peut-être qu'un jour je serais comme ça aussi.
Vous dites ce fameux camion, c'est quoi ce camion ?
C'est un camion un peu traumatisant, lui aussi, non, je rigole. C'est le camion qui vous dit que vous êtes au foyer, en fait. Vous savez, quand vous allez au collège ou en primaire, que c'est vos parents qui vous amènent, ils vous amènent dans des voitures, je sais pas moi, des Scénic, des Kangoo, des BMW, enfin n'importe quoi, dans des voitures normales.
J'aime bien le combo Scénic ou Kangoo,
voilà,
mais c'est exactement
ça. Voitures... complètement
familial.
Voilà, familial. Et nous, en fait, les enfants du foyer, on arrivait dans un espèce de gros camion blanc avec un pictogramme à l'arrière du camion jaune avec un adulte et un enfant. Donc, on annonçait la couleur directe et on sortait du camion un peu comme si on était des chevaux à la queue leu-leu. Et en fait, en arrivant à l'école, déjà, on était catalogués. On savait qu'on était les enfants à part, quoi.
Le sentiment qui prédomine à ce moment-là, c'est la colère, c'est la honte, c'est la tristesse, c'est l'envie d'en découdre, c'est quoi ?
Eh ben, c'est une honte extrême parce que un, on n'a pas de parents, deux, on se demande ce qu'on fout là, et il y a une certaine forme de moquerie aussi des autres enfants parfois, et c'est pour ça que Booba a occupé une place importante quand j'étais plus jeune dans ma vie, même sans le connaître, parce que ces musiques de l'époque, eh ben, elles véhiculaient en moi une certaine confiance, une certaine haine peut-être, qui me permettait d'être un peu plus sûr de moi.
C'est à ce moment-là que vous vous mettez à faire des conneries, d'abord des toutes petites et puis des moins petites. Un juge des enfants vous attrape par le callback et vous somme de faire quelque chose de votre vie. Ce sera donc à 15 ans, CAP pâtisserie. Comment se passent les débuts pour vous ?
Les débuts, mal et bien, je puis dire, parce que j'ai appris le monde du travail de la meilleure des manières, donc directement dans le bain. J'ai rencontré un patron qui s'appelait Christophe Viltard et qui m'a fait commencer à 3h du matin, 4h du matin, tous les jours. Et je me rappelle, j'étais au foyer, donc les éducateurs m'avaient trouvé un vélo, sauf qu'on m'avait volé mes pédales. En fait, je me servais du vélo comme une trottinette parce que je pouvais pas pédaler. Et tous les matins, j'arrivais à l'heure au travail tout de même et j'ai eu la chance d'avoir ce patron qui m'a donné la voie de la pâtisserie.
Vous aviez du plaisir déjà à faire ce que vous faisiez ?
Au début, en apprentissage, ouais. Absolument pas du tout. Non. Ouais. On se levait à 3h du matin dans le froid en plein mois de février pour aller porter des sacs de farine, c'est tout sauf un plaisir.
Qu'est-ce qui fait que vous tenez alors ?
Eh ben, ce qui fait que je tiens, c'est que quand je suis au foyer et que je dis aux éducateurs et à tout le monde d'ailleurs que je vais faire de la pâtisserie pour faire comme Laurent et Dany. Tout le monde met un peu des paris, des pronostics sur moi de combien de temps ça va durer, voilà. Et chaque jour qui passe, c'était une espèce de petite victoire pour dire à tout le monde, bah en fait, j'y arrive. Et puis la deuxième chose qui fait que je tiens, c'est que ce fameux patron qui était très dur avec moi et qui me faisait nettoyer les toilettes, gratter les plaques, remonter les sacs de farine, faire les inventaires, tout ce que au final je ne voulais pas faire, m'a donné une de mes premières leçons, savoir donner pour recevoir. Moi, j'étais là pour faire de la pâtisserie, et tous les matins, il me donnait une liste de 3 heures de travail avec des tâches ingrates. Et une fois que j'avais fini ces tâches ingrates, j'avais le droit de faire les éclairs au café et les tartes à la fraise. Mais les 2 premiers mois de ma formation, eh ben, le travail que je faisais en 3 heures, je le faisais en 8. Donc quand je me suis rebellé et que je lui ai dit « mais attendez, je ne suis pas là pour nettoyer », eh ben, il m'a dit tout simplement « le jour où tu feras ce que tu fais en 8 heures, en 3 heures, eh ben, tu auras le droit de faire autre chose ». Ça a été une très grande leçon.
17 ans et demi, il est fini, le CAP pâtisserie. Vous, vous rêvez de Paris. Sur le papier, c'est à 3 que vous êtes coincé. Vous avez signé un contrat jeune majeur avec l'ASE qui vous y a pris un appartement. Alors en plus, avec les conneries que vous avez faites, vous n'allez pas vous mettre à râler. Râler, non. Mais aller à Paris, si, quand même.
Exactement.
J'irai au ciel rejoindre Rimkus le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles entrée. Pas très loin de Malia, elle est chargée sous le maillot. Le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, ben je disparaîtrai comme Houdini. Voyant comme Suleiman, voyant comme Meknes et Jimmy. À 2 doigts de péter le million, mais ce PD se fait désirer. Pour l'instant, je suis dans le hall, sous dol, je réfléchis. Qui aura le sourire, en coin de bouche, si je flanche. Ceux qui parlent fort sont que des baltringues déguisées. J'ai les chaussures qui piquent, j'arrive vers les Champs-Élysées. On peut t'enlever la vie pour sauver nos réputations. Évitons toutes les tentations, à l'heure qu'il est, je suis dans l'avion. On tire, laisse les plaintes, déjà j'arrive en tête du peloton. Je suis là que pour la plata. Ouais. Le lundi et le mardi, ouais. Le gérant se lève à 5h, ouais. En peur qu'on vienne l'éclater. Y'a rien de facile dans l'argent facile, Zé Pequeno me fascine. 357 Magnum, pas de grappling. Y'a la volaille qui applique, on s'échappe. Minuit pété sous chambre, demain je serai aux Seychelles. Et pour avoir cette vie là, j'ai remonté les bretelles. Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal. Black Panther, comme la daronne de Tupac. Les barreaux ou les tropiques, on prendra l'argent tout pareil. De toute façon, c'est nous les best en vrai. Dealer qui reste tranquille, ou le machin va discuter. Tu veux donner des coups de main à les best. Mon père, j'ai mon papier, j'ai mon équipe, j'suis pas dans la mendicité. Élève dissipé d'après le dire du prof. 5 ans plus tard, son fils me demandera une toffe. 500 000 albums plus tard, ma tête a pas gonflé. Le prochain s'appellera Destin, j'vais tout vous raconter. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Rimkus le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si j'suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Oh oh oh. Moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milieux. Oh 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 oh. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milieux.
Nino, la vie qu'on mène, pourquoi elle vous accroche, cette chanson-là?
Ouais, ça raconte un peu nos vies, quoi. Quand je dis nos vies, c'est je m'identifie à beaucoup d'autres personnes qui traversent des choses difficiles. En fait, la particularité de ces personnes qui chantent, entre guillemets, le rap, c'est que on s'identifie pas à 100%, mais il y a forcément quelque chose qu'ils disent dans chacun de leurs textes qu'on a vécu à un moment ou à un autre, ou alors qu'on...
Il y a quelque chose de l'ordre de la révolte aussi, l'idée qu'on va pas rester au fond du trou, mais qu'on va
en
faire quelque chose.
Bien sûr, parce que quand on est dans une phase de sa vie où la terre entière nous dit qu'on va rien faire, bah heureusement qu'il y a un Booba derrière qui chante,
ou
qui nous sauve la vie à sa manière, ou un Nino.
Yazid Hichem Rehn, chef pâtissier au Royal Monceau, c'est avec vous qu'on se balade en marge ce soir sur vos sentiers de traverse, avec vos coups de frein, vos virages, vos embardés. Il y a quelques minutes, on est avec vous à 3, vous avez votre CAP pâtisserie en poche et vous piaffez. Paris vous tend les bras, c'est décidé, vous irez.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Pourtant, que la montagne est belle. Comment imaginer. En voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Qui écoutait Jean Ferrat autour de vous à ce moment-là?
Un de mes maîtres d'apprentissage.
Ouais.
En fait, c'est marrant, j'ai appris à faire les croissants avec un vieux monsieur qui s'appelait Gissin. Et en fait, il écoutait cette musique-là tous les matins. Et c'est vrai que moi, bon, j'étais jeune et tout, sur le coup, ça me saoulait, en fait. Et maintenant, quand je réécoute cette fameuse musique, ça me rappelle ce qu'il a fallu faire pour faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis surtout, l'apprentissage des croissants, quoi, c'était une belle époque.
Comment vous arrivez dans ces cuisines-là, qui sont, je crois, en région parisienne, à Saint-Ouen, c'est ça ?
Ouais.
Ce sont les cuisines d'Angelo Musa, c'est ça ?
Oui, exactement. C'était le laboratoire de pâtisserie d'Angelo Musa, donc la pâtisserie des rêves, qui était tenue par Philippe Conticini. Et à l'époque, une plongeuse, donc une dame qui fait la vaisselle de chez Pascal Café, avec qui je m'entendais bien, me met en contact avec Angelo. Je l'appelle et il me dit « Sois à Paris dans 72 heures ». Et j'avais jamais mis les pieds à Paris, pas suffisamment d'argent pour prendre le train. J'ai fraudé ça pendant 9 mois à peu près, quoi. J'ai fraudé le train pendant 9 mois pour aller travailler. Tous les matins, je faisais 3 Paris. Je prenais 3 métros et j'arrivais à Saint-Ouen pour travailler dans le laboratoire où on officiait. Et le soir, je re-rentrais à 3. Donc je faisais presque 500 km dans la journée.
Quand vous réussissez à choper le train, parce que parfois vous le loupez.
Ah oui, surtout
sur les journées sont trop longues.
Exactement, ouais.
Et surtout du coup, vous dormez
sur les trains retour, en fait. Ouais. Mon dernier train, je m'en rappelle, à l'époque, il était à 20h13, le tout dernier. Et en fonction de si le métro était à l'heure ou pas, enfin s'il n'y avait pas des retards, je ratais le train. Et souvent, en fait, j'avais une technique. Moi, je me mettais dans la ligne 13, Carrefour Pleyel, elle était assez longue, jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Et donc, je somnolais là-dedans, je m'asseyais et je dormais jusqu'à 2h30 du matin. Et comme les équipes, elles reprenaient le lendemain à 4h30, 5h, il me restait 3h à attendre. Donc, j'allais me poser dans une case d'escalier, pas très loin de là où je devais aller travailler. Et voilà.
Ça, c'est pour vos nuits. En journée, est-ce que la réalité ressemble à ce dont vous aviez rêvé là-bas ?
Absolument pas, c'était un calvaire parce que quand vous arrivez dans un laboratoire de ce niveau-là et que vous êtes commis, eh ben vous pouvez pas toucher à ce qui vous fait rêver, à la finition des gâteaux, au glaçage, aux textures, aux choses comme ça. Donc vous épluchez des pommes, vous détaillez de la gousse de vanille, vous faites la vaisselle et vous organisez le laboratoire. Donc en fait, je faisais un tas d'efforts individuels dans ma vie pour aller éplucher des pommes.
Et l'ambiance entre les personnes qui sont en cuisine, vous en diriez quoi ?
C'était pas toujours évident, hein. Moi...
On vous traite ?
Moi, on m'appelait le MBF.
C'est quoi ?
J'étais le meilleur boucaque de France, wow. Là-bas. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent l'émission, parce qu'en fait, il y a le concours des meilleurs ouvriers de France, donc MOF, M-O-F, et comme j'étais très fan des meilleurs ouvriers de France, moi, j'étais le MBF, meilleur boucaque ou meilleur bougnoule de France. Et en fait, c'était marrant, parce que je l'ai pris à la rigolade, on en rigolait, mais avec le recul, bon, j'ai bien compris que c'était compliqué d'officier dans ce métier, avec le genre de chef que j'avais, qui était pas méchant, hein, mais parfois bon, un peu puéril, certainement.
On va dire ça comme ça, oui. Alors, vous avez 19 ans, vous apprenez le décès de votre mère. Où en étaient vos relations avec elle à ce moment-là ?
Je ne lui parlais plus depuis un bon 5, 6, 7 ans. Je ne saurais pas vous donner une date exacte, mais je ne lui parlais plus depuis très très longtemps, par rapport aussi à la mort de mon petit frère. Mmh. Et puis, ce n'est pas que j'étais en colère ou énervé contre elle, c'est qu'il fallait que je me protège et que j'avais mis mon cœur et mon cerveau dans la poche pour me concentrer sur ce qui me faisait rêver, donc la pâtisserie, les gâteaux, la crème et éplucher des pommes à la pâtisserie de rêve. Et il se trouve que quand elle est décédée, bon, je l'ai... un peu mal vécu parce qu'elle m'avait envoyé une lettre quelques mois avant, quelques semaines avant, que je n'avais jamais ouvert. Je l'ai arraché sans l'ouvrir. Et puis, elle est décédée d'une mort, je ne sais pas, je ne sais même pas de quoi. Voilà.
Alors je ne suis pas allé entièrement. Peut-être qu'il est là le déclic pour vous, vous démissionnez. Vous demandez votre solde de tout compte, 907 euros en poche, 125 serviront pour le train, direction Nice. Et le reste vous aide à tenir jusqu'à Joël Robuchon.
Madame et messieurs,
Joël Robuchon qui est à l'hôtel Métropole à ce moment-là, vous le savez, alors vous toquez à sa porte, il vous prend à l'essai comme sous-chef. Pour autant, toutes les nuits, vous dormez sur une plage de galets. Pourquoi ?
Ben parce qu'avec les 907 euros et ma carte électron de la poste, j'avais plus de sous. Et du coup, j'étais interdit bancaire parce que j'avais dépassé le plafond autorisé. Donc je dormais sur la plage de Galets à Nice. Tous les matins, je me levais, j'allais prendre le train pour travailler à Monaco. Et n'ayant pas de parents ni de quelqu'un de ma famille, je ne pouvais pas avoir de garant pour un appartement. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu es resté autant de temps dehors alors que tu devais avoir des chèques ou des virements? Ben, le Métropole ne pouvait pas me faire de virement sur mon compte parce qu'il était tout simplement bloqué par rapport à l'interdit bancaire. Et les chèques, donc, je les retirais, mais je les accumulais. Et je ne pouvais pas non plus les mettre sur mon compte. Donc, en fin de compte, je suis resté comme ça pendant presque 9 mois.
Alors, ça a fini par se savoir. L'équipe de Joël Robuchon apprend que vous dormez dehors et vous trouvez une chambre à l'hôtel. Là, vous respirez, vous bossez et un par un, les paliers, vous les franchissez. Coupe de France de chocolaterie, médaille de bronze. Un sésame qui vous conduit vers votre premier poste de chef pâtissier. Vous êtes à l'époque l'un des plus jeunes de France. Ce sera à Poillac, près de Bordeaux. Mais ça ne vous suffira évidemment pas. Alors, à 20 ans, vous intégrez l'équipe de France de pâtisserie avec elle un an plus tard, en 2014. C'est la consécration.
Ladies and gentlemen, this competition is over. Avant de commencer, je voudrais tous vous féliciter, car cette année encore, le niveau était au rendez-vous. Ceux qui monteront sur ce podium ont su nous toucher, nous émouvoir au plus haut point. Alors, après délibération avec le jury, pour l'audace, la sincérité, l'engagement de leurs prestations, l'équipe championne du monde, la France.
Extrait du film À la belle étoile de Sébastien Tullard, film qui vous est consacré, champion du monde du dessert glacé. Ça y est, cette fois, vous êtes arrivé. Il vous fait quoi, ce titre? Il change quoi pour vous?
Ben, c'est une grande émotion parce que déjà, ça donne le ton sur tout ce que j'ai rêvé de faire quand j'étais plus jeune. Et puis ça me fait tourner définitivement la page avec la difficulté de ma vie. Et puis quelque part, ça me rassure parce que je me dis que toute ma vie, je trouverai du travail maintenant, que je serai plus trop livré à moi-même. Donc c'était un...
Vous êtes fier de vous ?
Un but. Aujourd'hui ou
à ce moment-là ?
Ah, à ce moment-là, j'étais... Je sais plus trop quelle émotion. J'avais beaucoup de fierté, mais en même temps, je me rappelle que j'ai beaucoup déprimé en rentrant du concours, parce que je m'y suis battu, entre guillemets, toute ma jeune vie à avoir le rêve d'être champion du monde. Et puis, quand je gagne cette fameuse Coupe du Monde en Italie, je rentre, et là, en fait, c'est fini. J'ai l'impression que j'ai plus de rêve. J'ai pas grand monde à qui le raconter, parce que j'ai pas de famille. Et quand vous êtes seul, comme ce que je suis seul, et ben vous souffrez autant dans les échecs, mais voire plus dans les victoires, parce que vous avez personne avec qui les partager. J'avais beaucoup d'émotions quand même.
Et
quand
vous avez 23 ans à peine. Vous allez ouvrir dans la foulée votre première boutique à Avignon avec un associé immensément riche, mais dont la stratégie diffère largement de la vôtre. Alors, vous le quitterez. Tant pis, c'est pas ça qui va vous arrêter. Et puis, de toute façon, maintenant, c'est Noël.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10 glistening once again with candy canes and silver lanes aglow.
Vous avez un petit peu d'argent, pas mal d'idées, et dans un moteur de recherche un soir de décembre, vous avez tapé « Homme le plus riche du monde ». Vous nous racontez la suite ?
Eh bien oui, mes idées divergeaient
votre associé.
De mon associé. Et comme il m'avait déjà apporté énormément, je voulais passer un cran au-dessus. Et j'ai tapé « Homme le plus riche du monde », puis « Homme le plus riche de France », parce que je voulais forcément plus riche que celui que j'avais déjà à mes côtés. Et j'ai vu Bernard Arnault s'afficher. Mm-hmm. Je ne savais pas du tout absolument qui c'était. Et j'ai vu qu'il était à la tête de ce fameux groupe d'excellence qui s'appelle LVMH, mm-hmm. Dont une de leurs marques les plus connues, Louis Vuitton. Mm-hmm. Et comme c'était une marque qui m'inspirait beaucoup à l'époque, je décide, comme un hommage, de créer une bûche de Noël qui aura pour vocation de leur être présenté, parce que d'Avignon, sans connaître personne, je me suis dit que M. Arnaud, bon, il devait avoir un bureau, j'allais toquer avec ma bûche, et puis bonjour, voilà, c'est pour vous. Mm-hmm. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que les bureaux sont plus protégés que le Pentagone, et que c'est une personne absolument inaccessible, et c'est tout à fait normal. Mais en postant cette fameuse bûche sur les réseaux sociaux, j'ai son fils qui m'a contacté avec une humilité et un humanisme déconcertant et qui m'a dit de passer chez eux, à la maison, le 18 décembre quand il faisait Noël, en famille, pour leur livrer cette fameuse bûche. Donc ça a été pour moi une très très grande aubaine, une très grande fierté. Et il se trouve que par rapport à la livraison, il m'a mis en contact avec la Fondation Louis Vuitton, parce que ça reprenait, c'était une bûche qui reprenait les célèbres voiles de la création artistique de Franck Guéry, un célèbre designer. Et la communication que j'ai fait autour de cette petite collaboration entre ma bûche et la Fondation Louis Vuitton m'a permis d'ouvrir à Namos Village, à Mykonos, un peu plus tard. Donc comme quoi, prendre les responsabilités pour essayer de rencontrer une personne.
Comme avec vous, tout est décidément assez rock'n'roll. Il vous propose d'ouvrir un lieu éphémère à Mykonos. Vous y allez, sauf qu'à ce moment-là, vous êtes à découvert. Vous n'avez même pas de quoi vous payer le billet d'avion. Donc c'est votre petit ami de l'époque qui vous prête l'argent.
Exactement. Ouais.
Et là, vous atterrissez sur une toute autre planète. Racontez-nous Mykonos, c'était comment ?
Ah, c'était complètement dingue. Je me rappelle que Caroline, mon amie de l'époque, donc, me prête ces fameux 3000 euros et j'arrive à Mykonos. Au début, donc, on a une belle boutique plus un stand de glace et on met les glaces à 2,90 la boule, comme partout ailleurs. Et en fait, la première journée, je vois des gens arrivés de partout, mais pour moi c'était des martiens parce que ils venaient toutes les villes du monde, des Russes, des Chinois, des Américains, des Japonais, et ils étaient tous immensément riches. Et il y a personne qui me payait une boule de glace avec des billets de moins que 100 euros, quoi. On pouvait même pas rendre la monnaie au début. Donc on a fait des comptes-ronds, on a monté un peu les prix. Et en fait, cette saison, elle m'a énormément appris parce que ça m'a appris déjà à gérer une clientèle vraiment qui vit dans un autre monde. Et au-delà de ça, Mykonos a été pour moi une de mes plus belles expériences lucratives parce que je suis arrivé là-bas, j'étais peut-être à moins 5000 ou 4000 euros sur mon compte, plus l'argent que mon ex-compagne m'avait prêté. Et puis on a fait une saison qui était extraordinaire. Et,
vous avez cartonné, et, c'est des journées
exactement.
De dingue, mais vous cartonnez.
Oui, oui.
Et le succès est tel que sur votre lancée, vous pourrez ouvrir une boutique au Bahreïn, à Singapour, à Dubaï et j'en passe. Vous êtes devenu donc businessman. Un temps, vous quittez les labos de pâtisserie. Vous évoluez alors parmi les plus riches du monde. Comment est-ce que vous vivez ça, ce décalage ou ce saut dans un autre monde en fait ?
Je le vis forcément mieux que quand je dormais sur la ligne 13 parisienne, mais en fin de compte, l'endroit d'où je viens, les gens que je côtoie et la manière dont j'ai évolué me fait me rappeler en toutes circonstances qui je suis et ne me fait jamais changer en fonction des gens que j'ai en face de moi. Donc j'ai rencontré vraiment tout type de personnes. Sur ma terrasse, j'ai rencontré plusieurs fois Gigi Hadid, Kate Moss, Robert De Niro, qui m'a commandé un gâteau. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. On a rencontré vraiment la terre entière et mes équipes et moi. Et il se trouve que à la fin de la journée, ça reste que des êtres humains aussi. Donc moi, je fais des gâteaux et je pense que ça m'a pas plus dérouté que ça. En fin de compte, c'était une fierté sur le moment.
La suite va vous ramener à Paris, comme quoi les boucles finissent toujours par se boucler.
En marge. Sur France Inter.
Vous avez donc remis les mains à Yazid, pas dans le cambouis mais dans la chantilly. En janvier dernier, il y a à peine plus d'un an, vous avez été choisi parmi 10 candidats pour être le chef pâtissier du Royal Monceau. Votre logement de fonction se trouve à 70 mètres et tous les matins, vous remontez la rue de la Paix. Vous vous dites quoi en chemin ?
Je me dis que j'ai une très grande chance d'y être. En fait, le Royal Monceau, c'est un projet avant tout ultra humain. Avant d'être professionnel, parce que c'est un des premiers palaces où j'ai mis les pieds quand je suis allé à Paris, À l'époque, le café était beaucoup trop cher pour moi, donc je...
Vous saviez quel âge ?
Pas souvent. J'avais 20 ans, 21 ans.
Ouais.
Ouais, un truc comme ça. Et...
Quel souvenir vous en gardez ?
C'était gigantesque, c'était inaccessible pour moi. Et aujourd'hui, en fait, quand je me réveille et que je marche, que j'arrive là-bas, c'est comme si un peu... je me remémorais tout ce qui s'est passé dans ma vie avant de pouvoir être dans un établissement comme ça. Et c'est là où j'arrive à la quintessence de mon art, entre guillemets, parce qu'on va au maximum des produits qu'on peut chercher. J'ai une équipe d'êtres humains qui sont exceptionnels, où on se remet tous en question les uns après les autres pour créer la meilleure gamme de pâtisseries. Et j'ai beaucoup de chance d'être là-bas, surtout que je succède à Pierre Hermé, qui est un des plus grands pâtissiers du monde, si ce n'est le plus grand. Et donc, de là d'où je viens, avec ce qu'il a fallu faire, cette espèce d'enfant du foyer qui regardait Pokémon sans savoir vraiment où il allait aller, j'ai récupéré la place du plus parisien des palaces, juste après Pierre Hermé. C'est complètement dingue.
Vous vous apprêtez à ouvrir par ailleurs votre toute première boutique parisienne, At Home, dans quelques semaines et dans le premier arrondissement de Paris. Retour à la maison, donc, en quelque sorte, que vous ferez évidemment en musique et avec lui.
Chacun son chapitre, chacun son tome. Chacun grandit avec ses hématomes. Maman, tu sais combien je t'aime, papa aussi. Avec vos larmes, on peut remplir un océan. Ce soir, j'ai bossé en pensant à toute ma vie. Mon père, je l'ai rendu fou, mais là, c'est mon meilleur ami. On n'a rien fait comme les autres. Aujourd'hui, je ramène ma femme à ma mère pour lui demander son avis. J'ai son approbation.
Karim Z la crime parce que... Avant,
je faisais que gratter les marches. Parce que je l'aime beaucoup, déjà, ça me dit. Je rigole. Mais au-delà de ça, je... C'est les mots qu'il dit dans cette chanson. Me représente à 98%.
Il y a une forme de paix dans ses paroles aussi. Ouais. On a l'impression qu'il y a un retour sur lui-même et sur ses origines. Est-ce que vous en êtes là ? De pouvoir vous pacifier un peu, pouvoir vous poser un peu,
oui,
ou pas encore ?
Oui, bien sûr, parce que j'ai 33 ans, donc j'arrive à un âge quand même où je me calme de plus en plus, où je me pose et où je réfléchis beaucoup plus avant de prendre chaque décision. Mais c'est un peu une rétrospective de sa vie. Et aujourd'hui, quand... j'écoute cette musique que je suis dans un avion retour Paris ou go to Tokyo, ça me rappelle un tas de choses voilà.
Alors d'avion en avion, de kilomètre en kilomètre, vous auriez la crime dans les écouteurs et dans votre poche sur votre route, il y aurait quoi ?
Ce fameux caillou, je le prends pas partout avec moi, hein, c'est pas vrai. Hein, mais il est, en fait, il est dans la boîte à gants de ma voiture.
Caillou qui est un peu gros, hein, je dirais même un galet. Je dirais à peu près, on va dire, allez, 8 cm de diamètre.
Ouais, voilà. Et en fait, vous savez, vous avez dit tout à l'heure que de la plage de Galet où je dormais à Nice, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel sur Monaco. Et le dernier soir, avant de partir, je me suis juré que j'allais jamais redormir dans la rue, dehors. Donc j'ai pris ce galet pour m'en rappeler toujours. Et je sais pas, au début, je l'ai pris comme un souvenir. Je me suis dit que j'allais le jeter. Et puis il est passé de boîte à gants en boîte à gants. À chaque fois que je changeais de voiture, je le gardais avec moi comme un porte-bonheur.
En marge, c'est terminé pour ce soir. Merci Yazid Hichem Rehm. Gardez bien votre galet près de vous, précieusement. Merci
beaucoup
à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.